La mort est un passage. La mort est un passage, je suis passé dans la pièce à côté. Vous connaissez probablement ce texte, tantôt attribué à saint Augustin, tantôt à Charles Péguy, peu importe l'auteur, vraisemblablement plutôt à un auteur anglais du 19e siècle. On l'entend souvent aux obsèques. D'autant que le texte est plein d'optimisme, puisqu'il conclut « Vous voyez, tout est bien ». Et même parfois, on lui donne comme titre « La mort n'est rien ». Alors là, je dis « Non, on ne peut pas dire ça ». Alors je vais rajouter « La mort n'est rien qu'un passage ». Mais si c'était vrai, d'abord ce serait moins terrible, et puis normalement le passage se ferait dans les deux sens. Et de fait, un homme, Jésus, est revenu de la mort. Il est ressuscité. La Vierge Marie est apparue de multiples reprises tout au long de l'histoire, ainsi que de nombreux saints et saintes dans ce qu'on appelle des révélations privées. Et la question que nous devons nous poser à la lecture de ce texte de la Transfiguration et sur la présence de Moïse et d'Élie, c'est bien, d'où viennent-ils ? D'où viennent-ils ? L'Ancien Testament comporte au moins un récit de retour de l'au-delà. C'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 28, c'est la montée du séjour des morts du prophète Samuel. Un retour, une montée qui est provoquée par une nécromancienne, quelqu'un qui invoque les morts, qui les fait venir, une sorte de diseuse de bonne aventure. Et elle le fait à la demande du roi Saül, pourtant qui avait fait interdire de telles pratiques. Samuel apparaît et il est furieux. Furieux d'être dérangé dans son repos. On ne peut même plus mourir tranquille. C'est interdit. C'est effectivement possible. Et c'est totalement inutile. Saül n'y gagne rien. Pourquoi le fait-il ? C'est parce qu'il cherchait un remède à son angoisse. Son angoisse. Et la violation de cet interdit, la transgression, ne fera que l'accentuer. Il faut le dire et le répéter, la transgression n'est jamais une solution. Il faut demander cette grâce d'avoir assez d'humilité, assez de confiance dans le Seigneur pour respecter les interdits. Et donc à la Transfiguration, deux hommes sont présents auprès de Jésus qui étaient morts depuis des siècles. Moïse et Élie. D'où viennent-ils ? Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, qui était tenue par une partie de la tradition, c'est qu'en réalité, ils n'étaient pas morts. Ils avaient échappé à la mort, et pourquoi une partie de la tradition dit-elle cela ? C'est parce que l'Écriture elle-même dit, c'est la fin du livre du Deutéronome, dit que Moïse, quand il mourut, son œil n'était pas éteint, ni sa vigueur épuisée. Et les commentateurs disaient... Non, il n'est pas mort. Quant au prophète Élie, il avait été enlevé au ciel sur un char de feu. Et pour l'un comme pour l'autre, on en déduisait qu'il n'était pas mort. C'est un vieux fantasme qui revient régulièrement, encore aujourd'hui, avec un certain nombre de célébrités. On dit que Lady Di, Elvis Presley et un certain nombre d'autres personnes se retrouvent, je ne sais pas où. C'est un vieux fantasme qui n'est pas chrétien, qui n'est pas respectueux de leur humanité et qui surtout est très ignorant du Christ. L'autre hypothèse théologiquement fondée considère que leur présence de Moïse et Élie auprès de Jésus est une anticipation de sa résurrection, une anticipation de la résurrection du Christ et de la libération qu'elle a réalisée pour ceux qui l'attendaient au séjour des morts. Dans l'évangile de saint Matthieu, dans la Passion selon saint Matthieu, il y a un passage tout à fait étonnant. Après que Jésus, dans un grand cri, eut rendu l'esprit, le rideau du sanctuaire se déchira en deux, du haut jusqu'en bas, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et, dit le texte, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, Vous voyez le télescopage de temps. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À sa mort, c'est ce que nous professons dans le credo. Jésus est descendu aux enfers, c'est-à-dire au séjour des morts, dont il a libéré ceux qui l'attendaient et qui l'espéraient. Et Jésus le dit lui-même d'Abraham dans l'évangile de Saint Jean, il savait qu'il verrait mon jour. Il savait qu'il verrait mon jour, il l'a vu et il a été dans la joie. Cette libération du séjour des morts, c'est-à-dire des justes qui étaient morts avant le Christ, et puis depuis le Christ, de ceux qui le plus souvent passent au purgatoire, ont besoin d'une purification de leurs péchés, c'est ce que nous célébrons particulièrement chaque samedi. Chaque samedi, nous prions plus particulièrement à la Vierge Marie pour demander son intercession, en raison même de notre foi en son Assomption. Elle est entrée corps et âme déjà dans la gloire du ciel, où elle intercède pour nous. Et pendant le carême, mes amis, il faut plus encore que le reste de l'année, le matin du samedi, tout le samedi, prier Marie pour nos défunts. Et faisons-le avec un texte sublime de la tradition, cette très ancienne homélie du samedi saint, dont vous connaissez peut-être les premiers mots, « Aujourd'hui, grand silence sur la terre ». C'est ça, l'espérance de Pâques, le samedi saint. Grand silence sur la terre. Aujourd'hui, grand silence sur la terre, parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, les délivrer de leur douleur. Le Seigneur s'est avancé, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il l'a vu, Adam, le premier homme, a crié vers tous les autres, « Mon Seigneur, avec nous tous !» Et le Christ a répondu à Adam, « Et avec ton esprit. » Il l'a pris par la main et relevé. C'est ce qu'on voit sur toutes les icônes de la résurrection. Le Christ ressuscité qui prend Adam par la main, il l'a relevé en disant « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Lève-toi, partons d'ici, voici que moi, qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi, le royaume des cieux est prêt de toute éternité. » En ces jours où nous souffrons de la fragilité du monde, peut-être prêt à basculer dans la guerre, passe évidemment au second plan ce qui aurait dû être le deuxième anniversaire du premier confinement. Rappelez-vous, il y a 2 ans, quand les portes se sont fermées. Moi, je me souviens du mariage que j'avais célébré, on disait, le dernier samedi avant la fin du monde. Le maire de la commune était terrifié, il voulait prendre un arrêté pour interdire le mariage. J'ai dû le négocier longuement pour pouvoir le célébrer, toutes portes fermées. L'an dernier, on n'a pas pu en faire mémoire, il y avait encore le couvre-feu. Au premier confinement, il y a 2 ans, les portes se sont fermées. Il faut s'en souvenir, ça a été terrible pour ceux qui ont cessé d'être visités. Ça a été terrible pour ceux qui vivaient dans des conditions difficiles de promiscuité, d'exiguïté. C'était terrible pour ceux qui ne savaient pas qu'ils avaient une vie intérieure. Au confinement, les portes se sont fermées. À la transfiguration, la porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte sur la lumière de Dieu, sur la vie heureuse. Parce que cette porte, c'est le corps du Christ. Même si l'évangéliste le trouve si éclatant qu'il dit que c'est son vêtement qui devient d'une blancheur éblouissante. C'est son corps. C'est son corps qui ouvre sur la lumière. C'est ce que nous pouvons contempler à chaque messe, hostie sainte, pure et immaculée. La porte ouverte sur la vie heureuse, la vie éternelle. Dans l'Égypte ancienne, on a retrouvé, il existait, un livre des 12 portes. Livre des 12 portes, 12 portes que le défunt devait franchir successivement en proclamant à chaque fois « Je suis pur ». Vous voyez, là, un certain nombre de ressemblances et de coïncidences, mais fondamentalement la formule a changé. Depuis le Christ, ce n'est plus « je suis pur », c'est « je suis pardonné ». Ces portes sont celles de notre vie spirituelle, de notre vie intérieure. C'est ce que nous devons franchir dès cette vie,
jusqu'au plus profond, au sanctuaire de notre cœur, où Dieu est présent. Il nous appelle, il veut nous parler. Voilà ce que nous vivons dans la prière. Nous y entrons progressivement. Le Père dit, écoutez-le. Et le Christ lui-même explique, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Et alors, vous allez me dire, et Moïse, alors finalement, Moïse et Élie, d'où viennent-ils ? Le livre de l'Apocalypse y répond, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ils ne souffriront plus, ni du soleil, ni d'aucun vent brûlant. L'agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort est un passage, et le Christ est la porte sur la vie heureuse. La vie heureuse, c'est le titre d'un des premiers livres de saint Augustin après sa conversion, où se trouve cette définition du bonheur. Saint Augustin dit, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Continuer à désirer ce que l'on possède. Non pas posséder ce que l'on désire, mais continuer à désirer, c'est-à-dire avoir ce désir vivant de ce que l'on possède déjà, l'amour de Dieu. Le Christ est la porte sur l'amour de Dieu.